Vous écoutez France Musique.
Bonjour, c'est le matin des musiciens. Bonjour à tous. Dernière, non pas émission, il y en a encore une la semaine prochaine, mais dernière d'une série que j'ai commencée il y a déjà quelques semaines, qui s'intitule « Ah, vous écrivez de la musique aussi ?» Ce qui est l'interrogation qu'on entend en général lorsqu'on parle de certains auteurs écrivains par exemple. On a déjà parlé d'Anthony Burgess récemment. Aujourd'hui, on va évoquer la figure d'Alberto Savigno, qui était, parce qu'il est mort il y a déjà pas mal de temps, un écrivain italien, le frère du peintre Giorgio di Chirico. Et puis, il y a des figures littéraires, philosophiques, plus connues, qui sont aussi des musiciens. Alors évidemment, celui que j'avais évité jusqu'ici pour vous faire entendre des personnes et des personnages un petit peu moins connus, celui que j'ai évité, que je ne peux pas éviter pour cette dernière émission, c'est évidemment Friedrich Nietzsche. Michael Krüger au piano, qui jouait ces deux danses polonaises de Friedrich Nietzsche, qui sont des œuvres datées de 1862, c'est-à-dire que le philosophe musicien avait 18 ans. Alors philosophe ou musicien, les deux en général, naturellement, mais musicien d'abord. Musicien à un très jeune âge, bien avant même d'avoir écrit la moindre ligne philosophique ou littéraire. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'il était dans une famille musicale, musicienne, comme on dit plus exactement, et son père était pasteur. Et à ce titre-là, évidemment, comme l'on sait, dans la liturgie luthérienne, eh bien la musique tient une très très grande part. Et le jeune Nietzsche a été biberonné, si j'ose dire, aux musiques de Bach, des classiques, des musiques anciennes en général, et de tout ce répertoire que l'on entend évidemment dans ces lieux. Et c'est donc cela qui va probablement établir son goût pour une musique relativement simple. Ce sera évidemment son credo esthétique bien plus tard, vous le savez, lorsqu'il opposera Wagner à Bizet, choisissant le soleil de Bizet et accusant la musique de Wagner d'être un poison, ou du moins de contenir un poison dangereux. On reviendra tout à l'heure peut-être sur sa relation à Wagner, qui est évidemment beaucoup plus complexe que cela, et qui est aussi le résultat d'un cheminement, d'une réflexion au cours de sa vie. Mais ce qui est certain, c'est que Nietzsche va là s'inspirer d'un autre, évidemment d'un autre musicien qu'il aimait énormément, qui était une référence pour lui, qui est Robert Schumann. Il y a bien sûr un peu de Brahms là-dedans, il y a un peu de Chopin, et pour cause, puisqu'il s'agit d'une mazurka pour la première de ces deux pièces et aussi d'une charta pour la deuxième. Musique de salon, musique tout à fait délicieuse, sans grande personnalité, mais enfin qui témoigne au moins d'une capacité d'écriture à un encore assez jeune âge. Il y a des pièces beaucoup plus anciennes d'ailleurs dans l'œuvre de Nietzsche que ces deux pièces polonaises que je voulais vous faire entendre. Ce qui est intéressant, c'est que Nietzsche va pratiquer des petites formes, donc cette simplicité, cette clarté, il va la vouloir, et voici ce que cela donne dans une œuvre qui certes, si l'on voulait pousser un peu le bouchon, anticiperait un peu sur les formes brèves qu'on va trouver au début du XXe siècle, mais qui est aussi un souvenir des sonatines, parce qu'il s'agit d'une sonatine, c'est sa sonatine opus 11, il s'agit donc d'une petite sonate, mais cette petite sonate est vraiment petite, car vous allez le voir, les plages du disque, et donc les mouvements de l'œuvre, dépassent à peine 3 minutes pour la plus longue. Le mouvement lent est très très court, et le troisième mouvement l'est également. Écoutez cet art de l'ellipse presque musicale, et aussi une sorte de simplicité qu'on pourrait, ou que certains ont trouvé un petit peu bébête, mais c'est assez charmant et assez rafraîchissant. Thank you. une sonatine un peu bébête, je le disais, mais bébête, un peu comme le ton dégrisé que j'ai évoqué si souvent dans ces émissions, le ton de Satie plus tard hein, en France. Puisque je vous rappelais que Nietzsche, l'auteur de cette œuvre, aimait la musique française, la révérait même, la recommandait. Eût-il connu d'ailleurs la musique de Satie, je finis par me le demander, puisqu'il est mort en 1900, pourquoi pas. Mais en tout cas, je suis certain qu'il aurait sûrement été intéressé par cette comparaison. Je ne sais pas si j'aurais intéressé Nietzsche par mes propos, loin de là. Mais en tout cas, il y a une volonté dans le premier et le deuxième mouvement de cette sonatine de simplifier le discours. En revanche, dans ce troisième mouvement tout à fait énigmatique, on retrouve bien sûr à la fois Schumann et on retrouve aussi cette influence que l'on va sentir chez Wagner dans pas mal d'œuvres de Nietzsche, et cette tentation d'aller vers un langage plus aventureux. Mais il y a ça aussi chez Schumann, chez le dernier Schumann en particulier, souvenez-vous. Il y a cette espèce de, oui, non pas de d'éloignement de la tonalité, mais en tout cas d'une sorte de rapport fantomatique à la tonalité. Et ça, on entend quand même dans cette troisième, très beau troisième mouvement qui est le plus long des trois de cette sonatine, une sorte d'imagination musicale qui est assez intéressante. C'était à nouveau Michael Krüger qui a fait un très beau disque d'ailleurs de musique de piano, de la musique de Nietzsche, qui est vraiment recommandé. Il y a un autre domaine dans lequel Nietzsche s'est fait aussi connaître, ce sont les Lieder, et ça, ce sont des pièces d'un ton extrêmement différent. Dietrich Fischer-Dieskau a été celui qui a beaucoup fait pour la redécouverte de Nietzsche musicien. Il lui a consacré un livre. Il a enregistré pas mal de ses Lieder. Et il dit d'ailleurs, de façon plus générale, sur la musique de Liszt, la musique en général pour Nietzsche, pardonnez-moi, il écrit ceci: la musique fut pour Nietzsche, philosophe, une expérience existentielle dominante. Création artistique et intellectuelle devinrent en lui un seul et même processus. Voici ce que cela donne justement. On n'est jamais mieux servi que par Fischer-Dieskau, tout moi ce que je pense, ce n'est pas le seul, mais c'est le plus grand. Voici trois Lieder de Nietzsche par lui, avec Aribert Reinmann au piano, avec lequel il a enregistré des dizaines de disques aventureux qui explorent les tréfonds du Lied romantique allemand, successivement Nachspiel, Wie sich Rebenranken schwingen et Verkehlt.
Ich möchte das Diese Glanz umspielte Welt, in dem ich Lust und Widerring zum Spannen hält. Und möchte fortziehen, fort von den Menschen, Strahl.
Un art relativement aphoristique, un peu à la manière d'ailleurs des leaders de Hugo Wolf, pourrait-on dire, même si probablement ceux de Nietzsche n'ont pas le génie extraordinaire de ceux de son collègue, son confrère compositeur. Là, c'était Nachspiel, wie sich Rebenranken schwingen, et vers Welt, et non pas vers Kelt, comme j'ai dit. Avec ce lead, cet extraordinaire ambitus d'ailleurs, où l'on entend que Fischer Dieskau décidément avait une tessiture assez incroyable et pouvait chanter très grave et très aigu, mais ça, ce n'est pas une nouvelle, c'est donc lui qui les interprétait et qui a considérablement contribué à la reconnaissance, ou en tout cas à la connaissance, de ce philosophe, également musicien, qui était Friedrich Nietzsche, et c'était Harry B. Reinmann qui était au piano. On va passer à une autre pièce plus tardive, une pièce qui est après la rencontre avec Wagner, et pour cause, puisque en 1870, à la Noël 1870, Nietzsche s'est retrouvé chez le couple Wagner, Richard et Cosima, dans leur villa non loin de Lucerne, en Suisse, la Villa Tribschen, et qui, ce soir-là, était en fête, évidemment. Et le lendemain, l'on sait, c'est une scène fameuse, évidemment, cinématographique, on sait que Wagner a offert à sa femme ce fameux Siegfried Idyll, cette pièce pour orchestre de chambre qui était jouée dans l'escalier de la villa. Et comme Nietzsche était présent, parce qu'à ce moment-là, il était tout à fait en bon terme avec Wagner et sa femme, eh bien, Nietzsche, pour l'anniversaire de Cosima en 1871, a eu l'idée de lui offrir ses souvenirs de la Saint-Sylvestre de l'année précédente. Et il lui offre ça donc pour son anniversaire, et il se pique d'une citation de Siegfried Idyll dans le cours de cette pièce à quatre mains, qui a été jouée donc devant Wagner, dans le même endroit. Et alors, on raconte que Wagner, qui écoutait assez attentivement, est sorti de la pièce, et on l'a retrouvé dans la pièce à côté, se roulant par terre de rire. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On dit que c'est parce que la citation l'avait amusé. Je pense qu'il prenait peut-être pas tant que ça au sérieux la musique de Nietzsche. Mais écoutez cette curiosité dans sa version originale pour piano à quatre mains, qui est évidemment une pratique bourgeoise. On jouait deux pianos lorsqu'il y avait deux pianos dans une maison, parfois du piano et de l'harmonium quand il y avait un harmonium. Mais évidemment, ce que l'on faisait, c'était le piano à quatre mains. Est-il utile de rappeler que toutes les œuvres symphoniques du répertoire existaient bien sûr pour cette formation, et c'est comme ça qu'on les connaissait avant l'avènement du disque. Écoutez cette curiosité qui va être jouée par John Bell Young et Constance Keane.
Thank you. Thank you.
Une pièce pour piano à quatre mains de Friedrich Nietzsche qui a été écrite pour l'anniversaire de Cosima Wagner en 1871 et qui était un écho des souvenirs de cette fameuse soirée à laquelle Nietzsche avait assisté dans la villa suisse du couple lorsque Wagner avait offert le jour de Noël à son épouse la fameuse pièce Siegfried Idyll qui est citée dans cette pièce que jouaient John Bell Young et Constance Keane au piano. On va quitter Nietzsche, on va aller vers une autre figure beaucoup plus méconnu encore, c'est Alberto Savinio. Alberto Savinio, c'est le frère, c'est un pseudonyme qu'il avait pris d'ailleurs d'après le nom d'un critique français qui s'appelait Albert Savine, si ma mémoire est bonne, et qui était le frère donc de Giorgio de Chirico, lui-même peintre également, et également musicien. Un rapport difficile à la musique, assez intéressant dans ses premières années, puis il va abandonner après, pendant les années de la Première Guerre mondiale, il va revenir à la musique en 1925, il va à nouveau cesser d'écrire de la musique pour écrire tout simplement ses livres. Et il va aussi être un critique musical tout à fait conséquent. Et en fait, après la guerre, il reviendra encore un peu à la musique. C'est donc dire que là aussi, le rapport était un peu conflictuel entre ces différentes pratiques. Musicien intéressant, musicien qui lui aussi est dans la forme brève, lui aussi est dans une manière tout à fait dégrisée qui, elle, est vraiment hérité d'Eric Satie et qui précède quelque peu les essais, les travaux du groupe des Six. Ça a été créé en 1914 dans le cadre d'un atelier qui était organisé par Guillaume Apollinaire et il y a une sorte de dernière pièce qui est rajoutée à ce cycle pour piano, qui est une sorte de petit opéra bouffe, de chambre qui tient aussi bien d'Alfred Jarry d'ailleurs que d'Abdel Apollinaire, des Mamelles de Tirésias. Et vous allez entendre cette musique faite de gestes, de musique un peu stridente. C'est tout à fait dans cette époque du milieu des années 10 qui va se poursuivre ensuite jusqu'après la guerre. Écoutez, c'est ce cycle tout à fait étonnant, donc créé à Paris en 1914. Ça s'appelle « Les chants de la mi-mort ». Thank you.
Il revint après sa mort. On l'avait livré au sort. Oui.
Il revint après sa mort.
Voilà une dinguerie tout à fait typique de cette époque de la juste avant-guerre, première avant-guerre mondiale, 1914, la date de création de ce cycle pour piano qui s'appelle « Les chants de la mi-mort ». Et ce cycle d'Alberto Savigno, l'écrivain bien connu, critique musical aussi et compositeur donc, à certaines périodes de sa vie, a ajouté, et ça c'est la version révisée, donc qui a dû être établie à partir de sources par Antonio Ballista et Luigi Rognoni, c'est une pièce qui est donc une sorte de petit opéra bouffe, je vous le disais tout à l'heure, pas dans l'esprit d'Alfred Jarry ou dans l'esprit de l'Apollinaire des Mamelles de Tirésias. D'ailleurs, il y a une référence aussi à de la transsexualité, si vous voulez tout savoir, dans cette pièce. Il se rua sur la table d'acier, revolver à des flacons émaciés. Ah, 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 je m'appelle Julie, je suis homme et fille, nous est-il dit. Alors, on ne comprenait pas grand-chose parce que les deux chanteurs italiens, qui étaient Luisa Castellani, soprano, et Alberto Rona, baryton, et qui jouaient d'autres petits gadgets que vous avez pu entendre, n'avaient pas une diction formidable. En tout cas, je trouvais que cette suite pour piano avec ce supplément qui a été rajouté, donc avec la participation de deux chanteurs, valait la peine, d'autant qu'elle précède quand même certaines autres pièces un peu dans le même esprit. On est dans, à la fois dans le surréalisme, dans le futurisme, je le disais, on n'est pas loin de l'esprit de la pochade de Francis Poulenc, la Rhapsodie nègre qu'il va écrire en 1917, trois ans après. Tout ça autour d'Apollinaire, c'est autour de ce poète, et aussi plus tard de Cocteau et d'Éric Satie, bien sûr, que vont se constituer tous ces groupes musicaux, notamment le fameux groupe des Six, et cette esthétique de la brièveté, cette esthétique anti-wagnérienne, anti-debussiste, où l'on voulait, après la fin de la guerre, nettoyer tous ces miasmes musicaux et sonores tels qu'il les détestait. Et évidemment, Alberto Savigno, qui était à Paris à cette époque, s'est retrouvé lui-même dans cette même tendance. On va maintenant entendre quelque chose qui me ravit, parce que c'est la musique du prince Sihanouk. Saviez-vous que le prince du Cambodge était aussi compositeur ? Moi, je l'ignorais. Il était poète, il était musicien, il était chanteur, il était homme politique. Alors, je passe sur sa carrière politique, c'est toute une affaire assez compliquée, bien sûr. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire, alors qu'il chantait de la musique dite traditionnelle ou ses propres compositions, eh bien, c'est quand il s'est mis à composer une suite cambodgienne, eh bien, cette suite cambodgienne, elle pourrait tout à fait être à sa place dans une comédie musicale américaine. Je pense évidemment à Richard Rodgers et à son King and I, bien sûr, qui est une histoire un peu connexe. C'était un goût qu'avait évidemment la comédie musicale américaine pour cela. C'est en ce moment au Châtelet à Paris, au moment où je vous parle. C'est pour ça que je fais référence à cette œuvre. Écoutez cette musique qui, moi, évidemment, me ravit, qui va vous changer un petit peu des fulgurances d'Alberto Savigno. C'est André Costellanets qui jouait beaucoup de musique légère américaine. Et là, sachant en plus la passion de Sihanouk pour l'Amérique, cela est assez, assez amusant. Et André Costellanets dirige là son propre orchestre. croyez-le ou non, l'auteur de cette musique est Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, roi, premier ministre, président, tout ce que vous voulez. En tout cas, il a même cumulé les emplois. Et parmi les nombreuses activités qui furent les siennes, eh bien, il y a celle de compositeur. Je ne sais pas, parce que j'ai eu très très peu de documentation sur ce sujet, mais je ne sais pas s'il s'est fait aider pour écrire cette suite cambodgienne dans le goût tout à fait hollywoodien. Je pense évidemment aux musiques qui accompagneraient un film se passant là-bas, avec une musique de Richard Rodgers et sur un livret et des paroles d'Oscar Hammerstein, naturellement. Et en tout cas, c'est de la musique absolument délicieuse. Ça se trouve non plus sur support physique aujourd'hui, mais vous pouvez le trouver sur des plateformes de vente, et notamment chez Cobuz ou Cobuz, qui vend une série qu'a publiée Naxos, qui est la série Naxos Classical Archive, et qui propose justement des disques avec des programmes absolument insensés, que l'on ne trouve pas dans le commerce, et surtout sur CD, sûrement parce que cela n'intéresse pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, mais j'espère que parmi vous, il en est qui auront envie d'y aller faire un tour, parce qu'il n'y a pas que la musique du Prince Sihanouk, il y a beaucoup d'autres choses à y découvrir, des répertoires vraiment inusités, pour le moins, et souvent des enregistrements comme celui-ci, fait par André Kostelanets, dans les années, je suppose, 50, peu d'informations aussi sur la date d'enregistrement. Mais en tout cas, allez-y, ça vaut vraiment la peine. On va terminer avec une musique plus sérieuse. Elle est signée Dimitri Mitropoulos, le grand chef d'orchestre. Alors, Dimitri Mitropoulos était aussi pianiste, très bon pianiste, à tel point d'ailleurs qu'il dirigeait des œuvres extrêmement difficiles du piano. On l'a un peu oublié. Figurez-vous qu'il jouait le troisième concerto pour Prokofiev, où les deux mains sont déjà très très occupées. Je ne pense pas qu'il dirigeait avec le pied, mais il arrivait à le diriger du piano, ce concerto, entre autres. Et Mitropoulos était un musicien plutôt d'une veine sérieuse. Il a écrit dans sa jeunesse des pièces un peu folkloriques de sa Grèce natale. Je pense en particulier à une série de danses crétoises dans un style tout à fait traditionnel. Et puis sa musique va être aussi le reflet de son goût pour la musique dodécaphonique, pour la tonalité en un seul mot. Et rappelez-vous qu'il a enregistré c'est lui qui a fait le premier enregistrement de Wozzeck de Berg. C'est-à-dire qu'il intéressé à cette musique. Et puis, dans ce que vous allez entendre, Passacaille, intermezzo et fugue, eh bien, on entend à la fois son goût pour une écriture très sévère, avec cette passacaille qui, je vous le rappelle, est une forme obligée, avec la répétition d'un motif, en général à la basse d'ailleurs, et cette fugue, bien sûr, qui termine souvenir de Bach, souvenir de Liszt et souvenir aussi, bien sûr, de Busoni, qui fut son professeur. Passacaglia intermezzo et fugue, on a entendu assez peu de la Passacaglia. C'est une œuvre très développée, évidemment. Je vous ai dit que c'était dans la lignée des grands triptyques, commençant par Bach, évidemment, poursuivi par d'autres compositeurs, Reger, bien sûr, Liszt, Busoni, etc. C'est une pièce donc de Dimitri Mitropoulos, plus connu pour ses activités de chef d'orchestre, musique sérieuse, tonalité élargie, mais pourquoi pas, c'était Danae Cara qui jouait cette relative rareté au piano. Voilà, merci à François Pron, à Benoît Latil, à Paul Simonacci, à Flora Sternadel qui m'a aidé à préparer cette émission et à Géraldine Prüttner qui l'a réalisée la semaine prochaine. C'est la dernière du Matin des musiciens et je recevrai mes deux comparses principaux de cette année, Vincent Varnier et Richard Marté, pour une émission qui, je pense, sera folichonne.